Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que ça va bien. Ah, je vois Jack. Hop. Bonjour, bonjour. Alors, je vois le nom de Norman Curtis. Nick qui vient d'apparaître sur l'écran avec une énorme bibliothèque. Norman Curtis, Barbara Beth. Ça y est, je vois les images. Lynn à Nice qui doit avoir super chaud. Curtis, Nick, Kelly, Barbara. Je vais mettre, voilà, je vais mettre comme ça sera plus simple. Barbara Rayi, Beth est là. Curtis, bonjour Jack. Janet, bonjour Janet. Kelly, Lynn, Nick et Nick Tax. Et Norman. Hop, voilà. Ça y est, quand tout le monde se connecte au fur et à mesure, les noms s'affichent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on a une séance et la prochaine séance, ce sera à la fin du mois d'août. So, the next lesson will be at the end of August. Ça y est, je vois que tout le monde arrive. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Il me semble que certains d'entre nous sont à nouveau en lockdown. Je crois que c'est le cas pour l'Australie. J'ai une élève qui me disait ça. Alors, je vois plus. Voilà la conversation. Ça y est. Bonjour à tous. Alors, j'espère que ça va bien pour vous. Donc, ici en France, la situation, on a la mise en place de ce que le gouvernement a appelé un pass sanitaire depuis le 21 juillet. Et donc, pour aller au cinéma, au restaurant, dans les musées, dans les, je ne sais plus, enfin, plein de choses où on se regroupe à plusieurs, maintenant, il faut montrer une preuve de vaccination. Donc, je suis pour la vaccination, absolument. La question, ça a été la mise en place assez, on peut dire catastrophique et précipitée de la part du gouvernement qui a annoncé ça très rapidement, alors que finalement, ils ont mis beaucoup de temps à mettre en place la vaccination. Donc, ça met beaucoup de gens dans une situation très difficile où eux n'avaient pas eu d'accès à des créneaux de vaccination et ils sont très embêtés. Voilà, donc ça a fait un gros boost de vaccination, mais tous ces gens n'auront le pass que dans 6 semaines ou un petit peu plus. Voilà, donc c'est ce qui se passe en France. On verra comment ça se passe dans les semaines qui viennent. On a beaucoup de variants Delta pour ceux qui l'ont aussi. Et puis sinon, c'est la moitié des vacances. Donc c'est le début d'août et l'école doit reprendre en général fin août ou début septembre. Voilà. Ah, Nick me pose la question, est-ce que j'aime le pass sanitaire? Alors, c'est un sujet qui est compliqué. Je suis pour la vaccination, je suis vraiment pour la vaccination. Je suis une scientifique, donc je suis pour la vaccination. La question, c'est pas forcément seulement d'être pour ou contre un pass qui montre qu'on est vacciné, c'est aussi la façon dont la vaccination a été proposée à toute la population française. Parce que là, on est le 26 juillet et la vaccination à tout le monde en France n'a été ouverte que le 31 mai. Donc, c'est très récent. Donc, ça veut dire que pour beaucoup de personnes, c'est techniquement impossible d'avoir ce passe parce qu'ils n'ont eu un accès à un créneau de vaccination que très tard. Parce que quand ça s'est ouvert le 31 mai, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de gens qui voulaient être vaccinés. Donc, il y avait beaucoup moins de places. Et donc, certains n'ont pas pu avoir un créneau. Donc, est-ce que je suis pour la vaccination? Oui. Est-ce que je suis pour un pass sanitaire? En théorie, oui. La question, c'est que surtout que le gouvernement a mis ça en place dans la précipitation, de façon très autoritaire, et ça crée des problèmes par rapport à la réalité de la vie, parce que beaucoup de gens avaient réservé des vacances aussi, des gens qui sont moins privilégiés que nous, et pour eux, c'est leur seule possibilité d'aller en vacances, ils n'ont pas pu avoir une vaccination et donc ils ont dû annuler. Donc ça, c'est difficile parce que en fait, tout le monde vit une situation très difficile. certains plus que d'autres, et j'ai l'impression qu'on ne fait que faire souffrir les gens qui sont dans des situations les plus difficiles. Donc, est-ce que je suis pour le pass sanitaire ? En théorie, oui, mais je suis pour que le gouvernement aussi s'organise mieux pour que tout le monde puisse avoir accès à la vaccination, et surtout que le gouvernement ait une approche beaucoup plus pédagogue et ouverte aux gens qui ont des doutes aussi. Parce que moi, comme je vous dis, je suis scientifique, donc je suis pour la médecine en général, mais il y a des gens qui ne savent pas, qui ont peur et tout, et donc au lieu de leur dire « vous êtes tous stupides », il faut essayer d'avoir une approche plus gentille. Voilà. Donc c'est ce que je reproche aussi au gouvernement, c'est de dire « si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes stupide ». Et je pense que ce n'est pas une façon de parler à sa population qui doute. Voilà. Donc, c'est un sujet compliqué, surtout en ce moment. Et on va voir comment ça se déroule. Donc, c'est surtout ça. Et surtout, le gouvernement a vraiment très mal organisé les épreuves du baccalauréat, par exemple, pour les adolescents. Il y a des problèmes aussi qui vont arriver à la rentrée, qui ne sont pas du tout gérés, qui vont être gérés au dernier moment. Donc, c'est tout un panel de choses qui ne sont pas prises en compte et qui vont bien au-delà de juste la situation sanitaire. Donc, c'est moi, en tant que citoyenne, ce qui me pose le plus problème. Donc, oui, je suis pour ce genre de choses, de passe, mais je trouve que le gouvernement jette des choses comme ça, très vite, au lieu d'être bienveillant et pédagogue pour tout le monde. Voilà. Donc, nous, on a eu de la chance à Grenoble, on a pu se faire vacciner avant l'ouverture de la vaccination à toute la population française, parce que ma ville, à moi, décidé d'ouvrir la vaccination à tout le monde en avant. Mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils n'avaient pas le droit officiellement. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de Grenoblois comme moi qui ont pu, en toute légalité, on n'a pas pris la place de quelqu'un, se faire vacciner en avance. Et donc, on a ce pass sanitaire immédiatement parce qu'on n'a rien à attendre. Voilà. Donc, hélas, en fait, c'est plus un problème de gestion qu'un problème de science. Donc voilà. Voilà. C'est compliqué, on peut dire. Voilà. Donc j'étais 3 semaines en vacances et là on va repartir en Alsace pour normalement 3 semaines. Donc la prochaine session du salon, ce sera fin août. Voilà. Alors je vais vous partager le lien pour aujourd'hui. Ici. Hop. Et d'ailleurs, à propos du pass, le maire de Grenoble, il va être candidat à devenir peut-être président de la République. Et c'est ce qu'il a mis en avant aussi. Il a mis en avant le fait que la mise en place de ce pass était très précipitée. Ils auraient dû le dire bien en avance, alors que pendant des semaines et des semaines et des semaines, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Donc, à nouveau, c'est toujours des décisions qui sont prises au dernier moment, alors que ça concerne 60 millions de personnes. Et on n'a pas l'impression qu'ils maîtrisent la situation. Et en fait, ils ne la maîtrisent pas, parce que toutes les décisions sont souvent prises, on ne sait pas trop comment. Et donc, pour moi, en tant que scientifique, c'est problématique, parce que les scientifiques, quand ils ont un problème, ils réfléchissent et ils prennent une décision qui est basée sur des faits. Et donc là, c'est difficile à vivre quand on est rationnel et un peu scientifique. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'était le sujet du moment. Donc, la dernière fois, on avait travaillé sur des petites blagues d'un auteur qui s'appelle Guillaume Deleur, c'est un journaliste aussi. Et donc, je vais commencer par corriger les devoirs et ensuite, on va travailler sur le thème du jour, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné l'idée, je dois lui rendre sa bonne idée, c'est Mary donc, qui m'avait suggéré, qui parlait de la difficulté des expressions avec « attendre ». Et donc, je me suis dit qu'on allait faire une leçon sur « attendre » pour apprendre des petites expressions. Alors, la première question, comme d'habitude, c'était « qu'est-ce que tu as appris la dernière fois ?»« What did you learn last time ?» C'est une bonne façon de se remémorer ce qu'on a fait. Et pour apprendre les choses de façon durable. Qu'est-ce que tu as appris la dernière fois ? Les non-dits et les oui-dire, me dit Kelly. Tout à fait. Donc, les non-dits, ce sont toutes les choses qu'on ne dit pas. Donc, évidemment, ça va concerner des secrets, ça va concerner des tabous. C'est ce genre de choses, d'accord ? Un non-dit, c'est quelque chose qu'on n'exprime pas. Ça peut être quelque chose de positif, ça peut être de l'amour, par exemple. Il y avait beaucoup de non-dits dans leur conversation, alors qu'ils auraient dû, je ne sais pas, se marier ou s'embrasser. Voilà, c'est quelque chose de positif. Mais ça peut être quelque chose de négatif aussi. Ça peut être un secret négatif. Les oui-dire, tout à fait. Donc, les oui-dire, ce sont les rumeurs. Égale les rumeurs. Par exemple, d'après les oui-dire, est-ce qu'on le met au pluriel? Je ne pense pas. D'après les oui-dire, tu vas partir au Japon en 2023. D'accord? Donc, c'est d'après les rumeurs. Les non-dits, c'est un secret. Donc, par exemple, il y avait tellement de non-dits dans leur relation qu'ils ont fini par se séparer. Donc là, on va dire que c'est quelque chose de négatif, mais ce n'est pas forcément négatif, c'est juste des choses qu'on ne dit pas. Prendre la tête. Donc, prendre la tête, ça veut dire tout, ça veut dire embêter en général, d'accord ? Donc, ça peut être quelqu'un, par exemple, prendre la tête ou quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce problème de machine à laver me prend la tête. Je vais en acheter une autre. D'accord ? Attention, on peut dire aussi se prendre la tête. Par exemple, je me suis pris la tête 3 heures pour trouver un billet de train pour Limoges. Ce n'est pas vrai parce qu'à mon avis, ce n'est pas compliqué de trouver. Pas compliqué à trouver, mais ça marche. Je me suis pris la tête 3 heures pour trouver un billet de train vers Limoges. Donc, ça veut dire « I had to think a lot ». Se prendre la tête, d'accord, soi-même, ça veut dire vraiment réfléchir, lutter. Ensuite, on a « tenir à cœur ». Donc, tout à fait, Marie-Kélie me dit « tenir à cœur ». Donc, c'est important, d'accord, être important. Par exemple, ça me tient à cœur d'être là pour ton mariage. D'accord ? C'est important pour moi. D'accord ? Donc, tout ça, on les a vus. C'est dans chaque tweet de Guillaume Deleure, on a une comparaison entre des choses qui sont opposées dans les mots, mais qui peuvent être complètement différents dans le sens. Par exemple, quand il fait une blague avec non-dit et oui-dire, il y a oui et non. D'accord ? C'est ça, la blague. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit, le sens peut être complètement différent. Je remercie beaucoup Google qui me permet de corriger des petites fautes de caractères que je n'ai pas sur mon ordinateur. Alors, ensuite, je vais corriger les devoirs. Donc, il y a Nick et Beth qui avaient soumis des devoirs ce matin quand j'ai préparé la leçon. Alors, la puce à l'oreille, ça veut dire un avertissement. Est-ce que je peux afficher sans les commentaires ? Mode d'édition. Non. Je ne sais pas comment le faire. La puce à l'oreille, ça veut dire un avertissement. Les fourmis dans les jambes, c'est être nerveux ou avoir des fourmillements. En anglais, une puce à l'oreille, ça veut dire un reproche. Ici, on a le contraste entre deux animaux, les puces et les fourmis. Tout à fait. Le juste milieu, ça veut dire un bon choix entre deux extrêmes. Les bas-côtés, ce sont par exemple les bords d'une route. Ici, on a le contraste entre le milieu et les extrémités. Tout à fait. Donc, globalement, Nick, c'est très bien. C'est construit. Tu as fait une comparaison avec l'anglais. Tu as bien compris de quoi on parle. On va faire des petits... On va affiner ce que tu as écrit. Mais sinon, globalement, c'est très, très bien. Et tu as fait des phrases courtes. Et ça, c'est bien. Ça permet de faire moins de fautes. Alors, la puce à l'oreille, ça veut dire un avertissement. Attention, la puce à l'oreille, ça veut juste dire globalement une idée. Ce n'est pas forcément un avertissement. D'accord? Alors, je vais juste noter que ce matin, en préparant la leçon, sur la puce à l'oreille, voilà. C'est to set somebody thinking. Quand on dit mettre la puce à l'oreille de quelqu'un. C'est vraiment, c'est plutôt cette idée de it made me think. Ça m'a fait réfléchir. D'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tu essayais de te cacher dans le jardin, mais tes chaussures abandonnées sur la pelouse m'ont mis la puce à l'oreille. Donc, tu essayais de te cacher dans le jardin, c'est you were trying to hide in the garden. Mets tes chaussures abandonnées sur la pelouse. La pelouse, c'est the grass, d'accord? Mais c'est plutôt like a very English grass that is very beautiful. Sinon, on dit l'herbe, d'accord? L'herbe, c'est the grass, mais pas coupée et bien faite, d'accord? Mets tes chaussures abandonnées sur la pelouse sont donc abandoned shoes, lawn, voilà, on the lawn. La pelouse, c'est plutôt the lawn. On peut dire le gazon aussi, d'accord? Si vous êtes dans le, si vous êtes jardinier, on dit la pelouse ou le gazon, mais le gazon, c'est vraiment l'espèce de l'herbe, il me semble. Donc, tes chaussures abandonnées sur la pelouse, sur the lawn, m'ont mis la puce à l'oreille. So they gave me an idea, d'accord? Donc là, on n'a pas un avertissement, on a vraiment juste une idée. J'ai vu tes chaussures abandonnées sur la pelouse et je me suis dit, tiens, je le cherche, il est peut-être caché dans le jardin. D'accord? Donc, la puce à l'oreille, ça veut dire un avertissement? Non, c'est plutôt une idée. Ça veut dire donner une idée. Et en général, on dit mettre la puce à l'oreille. D'accord? C'est vraiment l'expression. L'expression, c'est mettre la puce à l'oreille. Je pense que ici, comme le dit ici, comme le dit Nick, je pense que ce n'était pas précisé dans le tweet, mais je veux juste préciser pour vous, l'expression, c'est vraiment mettre la puce à l'oreille. Donc, la puce à l'oreille, ça veut dire donner une idée. Les fourmis dans les jambes, c'est être très nerveux ou avoir des fourmillements. Oui, en fait, ça veut vraiment dire des fourmillements dans cette idée de vous étiez assis longtemps et le sang ne circule plus. Donc, c'est vraiment ça, avoir des fourmis dans les jambes. Mais évidemment, quand on a peur, on peut avoir ce ressenti. D'accord? Mais c'est d'abord les fourmis dans les jambes, c'est d'abord le sang qui ne circule plus et donc ça pique. Et après, c'est d'autres choses. Donc, les fourmis dans les jambes, c'est être nerveux ou avoir des fourmillements. En anglais, une puce à l'oreille, ça veut dire un reproche. Ah, je ne savais pas. Ici, on a le contraste. Donc, ici, on va mettre une virgule. Ici, on a le contraste entre deux animaux, les puces et les fourmis. Tout à fait. Le juste milieu, ça veut dire un bon choix entre deux extrêmes. Extrême, c'est un accent circonflexe sur le E. Les bas-côtés, donc ici, hop, un tiret. Les bas-côtés, ce sont par exemple les bords d'une route. Ici, on a le contraste entre le milieu et les extrémités. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette correction? Que faire des phrases courtes, c'est bien. D'accord? Ça, on le sait déjà. Les choses à retenir, c'est donc mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire donner une idée ou avoir. C'est une petite graine d'idée qui vient dans l'esprit. Ensuite, les fourmillements. Avoir des fourmis dans les jambes, ça veut dire quand le sang ne passe plus et après on se lève et là ça commence à faire des petites pins and needles, je crois que vous appelez ça. Ça fait vraiment ça. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Donc le bas-côté, ça c'est pas mal. Le bas-côté, c'est le côté de la route, d'accord? C'est là qu'on ça descend. le bas côté. Par exemple, on peut dire arrête-toi sur le bas côté. Marcel a envie de vomir après tous ces virages. Arrête-toi sur le bas-côté. Donc là, c'est le bas-côté de la route. On imagine qu'on est en voiture. Marcel a envie de vomir après tous ces virages. Les virages, c'est comme ça sur la route, hein, quand ça tourne. Voilà. Ensuite, Beth. Ah, vous avez... Oui, ça m'a fait rire. Vous avez utilisé la même, le même tweet. Bonjour la puce à l'oreille, bonjour les fourmis dans les jambes. C'est un jeu de mots, tout à fait. Si on le lit littéralement, le bonjour s'adresse à la puce et aux fourmis. Mais si on le lit métaphoriquement, il utilise deux expressions avec les sens éveiller l'attention, la méfiance ou les soupçons. Avoir l'attention éveillée, se douter de quelque chose ou se méfier de quelqu'un et avoir une forte envie de se déplacer. D'accord. Donc là, Beth, c'est formellement parfait. Il y a tout ce qu'il faut, c'est bien écrit, il y a quasiment, il y a aucune faute, c'est juste à la fin sur les fourmis dans les jambes. Attention, avoir des fourmis dans les jambes, comme je l'ai dit juste avant, c'est d'abord, je vais regarder si c'est bien ça, pour pins and needles, fourmis dans, avoir des fourmis dans les jambes. Oui, voilà. Donc la le premier sens, c'est pins and needles in your legs. D'accord, c'est ça le premier sens. Mais évidemment, ça peut dire, ça peut vouloir dire aussi avoir envie de bouger parce qu'on n'en peut plus de rester là, d'accord, ou aussi avoir peur. Mais ce sont des dérivés, d'accord. Le premier sens de avoir des fourmis dans les jambes, c'est to have pins and needles, d'accord. C'est vraiment vraiment ça. N'apprenez pas un autre sens en premier, d'accord ? C'est d'abord ça, et après, on a des idées supplémentaires, d'accord ? Donc ici, ce n'est pas ça. Je vais juste le barrer pour pas qu'en regardant le texte, vous l'appreniez. Format, voilà. Donc, avoir une forte envie de se déplacer. Hop, je vais vous l'écrire, et c'est... on va dire être resté assis trop longtemps, d'accord ? Rester assis trop longtemps. Vous voyez, comme ça, on comprend vraiment bien. Alors, ensuite, je vais faire la question de Beth. Donc, comment dit-on « learning differences » en français et comment cela est-il généralement perçu dans la culture française ? Je sais que c'est un peu général, mais j'espère que cette question est acceptable. Alors, ça s'adresse à tout le monde. Toutes les questions sont acceptables, d'accord ? Vous pouvez poser la question que vous voulez ici. On est vraiment là pour parler de tout. Donc, est-ce que cette question est acceptable ? Oui. C'est un peu général ? Non, pas forcément. Alors, comment dit-on « learning differences » ? On n'a pas une traduction littérale de « learning differences ». Il y a plusieurs options. J'ai réfléchi, j'ai regardé un peu sur Google pour voir un peu des sites sur le sujet. Donc, on va dire différentes façons d'apprendre ou différentes manières d'apprendre. On peut dire « profil d'apprentissage » aussi. Mais voilà, on n'a pas de, j'ai pas trouvé un terme officiel que je trouvais satisfaisant. S'il y en a parmi vous qui le connaissent, ça m'intéresse. Mais on n'a pas de choses équivalentes. Comment cela est-il généralement perçu dans la langue française ? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, cette idée, elle est jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Parce qu'en fait, la culture française sur l'apprentissage est vraiment pas très ouverte, surtout jusqu'à une vingtaine ou une dizaine d'années. C'était vraiment l'idée de l'école à l'ancienne. Et ça commence à s'ouvrir un petit peu parce qu'on commence à réfléchir à comment les élèves apprennent. Donc, au niveau des professeurs, c'est de plus en plus accepté. Les professeurs y réfléchissent. Moi, je ne suis pas professeur. Mais voilà, ils réfléchissent à comment ils peuvent apprendre différemment, aussi des gens qui travaillent dans les entreprises. Donc, c'est de plus en plus pris en compte, mais il faut dire que l'école française est encore très traditionnaliste. Et donc, ça se fait encore très peu. Est-ce qu'on parle de la dyslexie ? Bah, c'est pareil, en fait, oui, mais à nouveau, je ne sais pas s'il y a grand-chose qui est mis en place. Je sais qu'il y a le fils d'un ami qui avait un problème un peu similaire à la dyslexie, mais ce n'était pas lié à l'écriture, c'était lié à autre chose. Enfin, c'était pas, oui, c'était pas lié à l'écriture, c'était lié à autre chose. Et en fait, ça a été, pour certains professeurs, ça a été impossible d'accepter qu'il ait ça. Donc, ça a été très difficile pour ses parents, parce qu'en fait, c'est un problème assez simple à régler, mais juste, ben, les professeurs n'acceptaient pas. Donc, ça dépend des professeurs, ça dépend des écoles, ça dépend des endroits. Et le problème, c'est qu'à nouveau, comme dans, hélas, beaucoup de pays en ce moment, l'argent qu'on met dans l'éducation nationale n'arrête pas de diminuer, donc ça n'aide pas les professeurs à être disponibles parce qu'ils ont des très grandes classes. Et donc, si un élève ne suit pas, il se fait un peu abandonner. Donc voilà, je ne suis pas très optimiste, je suis désolée, mais surtout avec ce qui s'est fait ces 2 dernières années où ça a été très difficile, voilà, on s'est peu pris en cours, on s'est très très peu pris en charge. Notamment, par exemple, enfin, je vous en avais déjà parlé, mon conjoint, il est intolérant au lactose. Donc, c'est lactose intolerant. Et c'est encore très difficile au restaurant, par exemple, d'être sûr qu'il n'y a pas de produits lactés ou dans les supermarchés, de trouver des choses qui sont adaptées ou des produits spéciaux. Voilà, même dans certaines boulangeries, c'est impossible d'être sûr que la personne qui nous parle sait de quoi elle parle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas grave ou que ça n'existe pas. Voilà, donc c'est compliqué. Et encore, c'est pas une allergie. Donc je suis. Voilà, donc je sais que j'ai des élèves qui me disent, ah, mais moi, je suis allergique à quelque chose. Et j'ai beaucoup d'empathie parce qu'en France, ça peut être très difficile d'avoir une intolérance ou une allergie et de pouvoir être sûr de ce qu'on mange. Après, pas au supermarché. Mais pour des restaurants ou pour certaines entreprises qui vendent de la nourriture, ça peut être compliqué. Il n'y a pas de programme universel pour quelqu'un qui a de la peine à apprendre? Non. Non, non. Non. Non, c'est compliqué. Et je pense que moins on met d'argent pour l'éducation nationale, moins ça va progresser. Alors, Mary posait une question sur le verbe attendre. Comment dit-on we expect? Expect to do something. For example, we expect to arrive around 11, we expect to eat by 7. Il y a tant d'expressions avec attendre. On pourrait aussi dire we plan to arrive by or we plan to eat at. Tout à fait. Alors, l'expression, je pense, la traduction la plus littérale, ce serait on s'attend à. Donc, on s'attend à arriver à 7 h ou à 11 h ou pour 11 h, d'accord? Il y a des gens qui vont dire on s'attend à arriver à 11 h ou pour 11 h. Ça veut dire un petit peu avant et on sera là à 11 h. Voilà. Mais ça reste très formel. Moi, je dirais plutôt dans la vraie vie, on pense arriver à 7 h. We expect to arrive at 7. On pense arriver à 7 h. Voilà, c'est moi, ce que je mettrais plutôt comme traduction réelle en termes d'usage. En fait, on peut s'attendre à beaucoup de choses. Alors, Lothar, l'allemand suisse. Donc, Lothar, il dit, nous espérons arriver à. Oui. En fait, dans espérer, il y a un petit truc qui est un peu différent, c'est il y a une idée de hope. Nous espérons arriver à 7 h, ce serait plutôt pour moi, we hope to arrive at 7, qui est en fait différent entre hope et expect. Il y a quelque chose de différent, d'accord? Donc je ne dis pas qu'ils sont totalement différents, on peut traduire we expect to arrive par on espère arriver à, mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Arriver à 7 h. Attention, il n'y a pas de. D'accord? On n'écrit pas, on espère de arriver. D'accord? Non, 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 mais pas, on ne met pas de. On espère arriver à 7 h. C'est transitif. on dit, je ne sais plus si c'est transitif, mais on espère manger des croissants à Paris. D'accord ? Il n'y a pas de « de ». J'espère te revoir bientôt. D'accord ? Il n'y a pas de « de ». Ça, c'est très important. C'est « espérer » plus « verbe ». Et là, c'est pareil. On pense plus verbe. Penser plus verbe. Attendre à. On s'attend à plus quelque chose. Donc, attention, il faut les apprendre cela. Attendre plus à plus verbe. Je suis en train de réfléchir. Il attend. Il s'attend à. Ah oui, c'est s'attendre à. S'attendre à plus verbe. Penser plus verbe. D'accord ? On dit s'attendre à. Donc, on s'attend à arriver à 11h ou pour 11h. Je vais mettre en dessous. Je pense boire une limonade en arrivant. Il pensait marcher 2 heures, 3 heures. Donc, on s'attend à plus verbe, c'est we expect something. D'accord ? Donc, on s'attend à plus verbe, c'est la traduction la plus littérale, mais dans l'usage, moi, je dirais plutôt penser. D'accord. Je ne vais pas dire à mes parents « on s'attend à arriver à 7 heures ». Je vais plutôt dire « on pense arriver à 7 heures ». D'accord. C'est plutôt à l'usage ce que je vais dire. Donc, espérer, ça peut marcher aussi. On espère arriver à 7 heures. Mais il y a une idée de « hope ». D'accord. On pense arriver à 7 heures, c'est parce que je prends le TGV jusqu'à Paris et je sais que le TGV ne va pas s'arrêter au milieu. Et que je pense qu'après, je vais prendre un taxi pour aller jusque chez eux et je pense que c'est bon. On espère arriver à 7 heures. On pense que le train aura du retard, peut-être que ça ne va pas aller. Donc, il y a vraiment une idée d'incertitude qui est beaucoup moins présente dans penser. Voilà. Et c'est comme ça que ça me disait de faire un thème sur les expressions avec « attendre ». Comme ça, on peut en voir et on peut voir des exemples aussi. Est-ce que vous connaissez des expressions avec « attendre » ? Ah, l'auteur me parle de « supposer que », « présumer que ». Alors, « présumer », c'est vraiment très formel. Supposer, c'est bien aussi, mais à nouveau, ce n'est pas vraiment « we expect ». We expect, c'est vraiment s'attendre. Mais on peut dire aussi supposer. On peut dire je suppose qu'on arrivera à midi. D'accord ? Je présume qu'on arrivera à midi. C'est vraiment trop, trop formel. C'est un truc qu'on n'utilisera jamais. Alors, s'attendre à ce que. Donc ça, on l'a déjà. On vient de le voir, en effet. Je sors mes notes parce que j'ai pris des notes ce matin pour vous. Voilà. Donc, Marie parle tout de suite de s'attendre à ce que, tout à fait, ça me permet de commencer avec une base. Alors, je vais enlever les commentaires. Voilà, tac. Voilà, comme ça, hop, ajuster, ce sera plus grand. Donc, Marie me parle tout de suite de s'attendre à ce que, donc tout à fait, c'est ici. Donc, s'attendre et attendre. Bah, dis donc, pourquoi ça fait ça ? Hop. Voilà, donc s'attendre, c'est to expect, d'accord ? Et attendre, c'est to wait. En fait, s'attendre, c'est to wait for yourself, d'accord ? Parce qu'il y a ce S apostrophe. Donc, par exemple, on vient de le voir, comme dit Marie, s'attendre à ce que, je m'attends à ce que tu réussisses ton bac avec mention. Donc, I expect you to get your baccalauréat with une mention. Je ne sais pas comment vous dites mention en anglais. C'est cette honors, voilà. Je vois honors, merit. Donc, c'est a good grade, a very good grade, d'accord? Avec mention, c'est honors. Donc, je m'attends à ce que c'est I expect you to do something, to succeed at something. On peut utiliser il s'attend, tu t'attends, vous vous attendiez. Donc, tout ça, il faut bien ajuster le S apostrophe. Hein. Vous vous attendez à ce qu'il arrive pour le déjeuner. You expect that he will arrive for lunch. D'accord ? Donc, on a à nouveau ce A. S'attendre à. Je vais vous le mettre ici, comme ça, vous ne l'oubliez pas. Vous vous attendez à ce qu'il arrive pour le déjeuner. D'accord ? Donc, vous n'oubliez pas d'accorder ce S. D'accord ? Par contre, attendre, c'est to wait. C'est très simple. Par exemple, j'attends le train. Tu attends l'arrivée du serveur pour commander ton plat. You wait for the waiter's arrival to order your meal. D'accord? Un plat, c'est juste... yes, it's a meal. J'attends l'arrivée du serveur. Tu attends l'arrivée du serveur pour commander ton plat. Donc, c'est un simple to wait. Il n'y a rien de plus. Mais en fait, on a des expressions, d'accord ? Alors, il y en a qui sont assez simples. Par exemple, attendre son tour, c'est to wait for your turn. C'est quelque chose que vous avez, je pense, en anglais. Par exemple, nous attendons notre tour pour monter dans le manège. D'accord. Le manège, c'est cette chose qui tourne dans les attractions pour les enfants avec les chevaux, tout ça. Le manège. Nous attendons notre tour pour monter dans le manège. Donc là, on n'oublie pas, à nouveau, on dit attendre son tour, donc il faut accorder ce nôtre. D'accord. Nous attendons notre tour. Si c'était vous, vous attendez votre train pour Nantes. Alors, est-ce qu'il y a, Marie demande, est-ce qu'il y a une différence entre s'attendre à ce que et s'attendre à ? Oui. Alors, tout à fait. S'attendre. En fait, si vous vous attendez à, ça s'applique à vous-même. D'accord ? Par exemple, si on reprend ça. Si on dit « vous vous attendez à arriver pour le déjeuner », c'est toi-même, it's yourself. You are expecting to arrive for lunch. You are expecting for you to arrive for lunch, so you can have lunch. Mais si on dit « vous vous attendez à ce qu'il arrive pour le déjeuner », c'est « you expect that he » will arrive for lunch. D'accord ? En fait, tu changes la structure de la phrase parce que tu peux arriver quelque chose. Tu changes la structure de la phrase pour qu'il arrive quelque chose. Donc, vous vous attendez à arriver pour le déjeuner. Si on fait une structure comme ça, c'est yourself. Mais on peut s'attendre à ce qu'on veut, en fait. On peut dire, vous vous attendez à ce que... Jeff Bezos donne toute sa fortune à la Croix-Rouge. D'accord ? Ça n'arrivera pas. D'accord ? Donc, en fait, c'est « you expect this to happen ». Et on peut mettre ce qu'on veut, hein, ce que le chien mange une saucisse. « Is s'attendre à ce que used with le subjonctif ». Je pense que oui. Il faut que je réfléchisse dans ma tête. Vous attendez C'est toujours, c'est une super question, mais mon cerveau, il est. Oui, vous vous attendez à ce qu'il vienne pour le déjeuner. Oui, tout à fait, oui, c'est du subjonctif. Très bonne question, Beth. Donc, si vous mettez, il faut que vous mettiez du subjonctif. Je vais l'écrire à plus subjonctif. Non, alors attends, non, c'est pas ça. C'est s'attendre à plus ce que plus subjonctif, oui. Donc, par exemple, on va mettre un subjonctif en valeur. Je m'attends à ce qu'il vienne en hélico pour le dîner. Donc ici, on a un subjonctif. Merci, Beth. Très bonne question, ça me permet de préciser. Donc, s'attendre à ce que plus subjonctif, en fait. Alors, la règle de base très simple, c'est qu'en général, s'il y a que, c'est qu'il y a un subjonctif après. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une bonne chose à avoir dans la tête, d'accord? Je vais l'écrire. S'attendre à ce que plus subjonctif. En fait, on était tellement parti sur s'attendre à plus verbe que j'ai plus verbe à l'infinitif que j'ai complètement oublié. Ok, super. Donc, attendre son tour, c'est assez simple. Nous attendons notre tour pour monter dans le manège. C'est la même chose que vous attendez votre train pour Nantes. D'accord? Aussi attendre que. Oui, en fait, à partir du moment où tu mets. À partir du moment où tu mets attendre que, il faudra toujours un subjonctif. Donc, en fait, effectivement, si on veut mettre une action derrière, j'attends, il faudra mettre un subjonctif. Donc, tu as raison. Je vais le préciser comme ça, ce sera vraiment clair. Donc, si tu mets attendre que, plus subjonctif. Fait, à partir du moment où tu as un bout de phrase avec que, il y aura du subjonctif. Donc, par exemple, j'attends qu'il sorte des toilettes pour y aller. J'attends qu'il sorte des toilettes pour y aller. D'accord? Donc, ici, on a un subjonctif. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il attend que son frère revienne. Du marché pour aller pour sortir le chien. Donc ici, on a aussi un subjonctif. Et d'ailleurs, là, c'est rigolo parce qu'il attend que son frère revienne du marché pour sortir le chien. On pourrait dire que la personne qui va sortir le chien, ça peut être lui-même ou son frère. Là, c'est pas clair. Mais c'est la même chose en anglais. Donc, attendre que plus subjonctif. C'est à partir du moment où vous avez que, vous avez un subjonctif. Donc, attendre son tour. C'est ça. Donc, vous attendez votre train pour Nantes, je vais l'enlever. Vous attendez votre tour pour voir le film. D'accord? Donc, votre. Ensuite, on a. Est-ce que vous connaissez attendre au tournant? Est-ce que vous connaissez attendre au tournant? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire attendre au tournant? Alors, Attendre au tournant, il y a une idée de He did something big before and we now expect what is going to come next. Je vais regarder sur World Reference si on a une traduction littérale, plus, mieux que ça. Attendre au tournant. Attendre au tournant, c'est... Ouais, voilà, il y a cette idée de... d'échouer. Donc, c'est « wait to trip somebody up »,« wait for a chance to trip somebody up »,« wait to catch somebody out ». Voilà. Donc, il y a cette idée d'attente d'échec. Attendre au tournant. Donc, par exemple, après, on va prendre un sujet d'actualité, après sa défaite, on va mettre plutôt sa victoire. Après sa victoire au JO de Tokyo, cet athlète est attendu au tournant par son pays. Alors, Marie-Guélie dit, ils attendent leur tour de prendre le vaccin. Oui, alors si tu mets il va falloir mettre leur, c'est ça. Par contre, de prendre, on va dire plutôt de se faire vacciner. Ils attendent leur tour. Donc ça, c'est très bien. Et c'est là qu'on va changer un petit peu la fin pour se faire vacciner. Pour donc leur... non, c'est pas ça que je veux. C'est... Ah, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, donc ils attendent leur tour pour se faire vacciner. Et si tu mets elle comme ça, ça marche aussi. D'accord ? C'est le même article ici. Ils ou elles attendent leur tour. Enfin, il y a une liaison. Ils ou elles attendent leur tour pour se faire vacciner. Donc, attendre au tournant, donc c'est cette attente de quelque chose qui va arriver, qui est plutôt... On attend quelque chose de négatif. Après, je vais vous mettre autre chose. Je vais mettre suite à. Suite à. Une série d'échecs l'élève est attendu au tournant par ses professeurs. Ses professeurs. Je ne peux pas rater mon bac. Mes parents m'attendent au tournant. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée de... Il s'est passé plein de choses. Il y a un passé déjà. Et on attend la personne au tournant. Donc, attendre au tournant. Ensuite, dans mes notes, il y avait « attendre de pied ferme ». Donc, il y a une idée assez similaire. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, là. « Attendre de pied ferme ». Est-ce que quelqu'un connaît « attendre de pied ferme » ? « Attendre de pied ferme », c'est un peu similaire à « attendre au tournant », mais ça peut être un peu neutre. Parce que alors, attendre au tournant, il y a une idée de quelque chose de négatif qui va probablement arriver si la personne ne va pas, d'accord ? Attendre de pied ferme, ça veut dire attendre sans bouger, d'accord ? Attendre de pied ferme, voilà. Wait resolutely. Wait no matter what. Il y a vraiment cette idée de je ne vais pas bouger. D'accord ? Par exemple, on va dire j'attends de pied ferme la sortie du prochain James Bond. C'est vrai parce que je ne résiste pas à aller voir les James Bond. J'attends de pied ferme la sortie du prochain James Bond. Je t'attendrais de pied ferme à la sortie de l'école. Donc, ne fais pas de bêtises. D'accord ? Cette idée de pied ferme, elle a vraiment cette idée de on ne va pas bouger. Évidemment, comme on a cette idée de ne pas bouger, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut avoir une idée de menace aussi. Par exemple, quand on dit « je t'attendrai de pied ferme à la sortie de l'école », ça veut dire il y a une idée de menace parce que on va être là et on va surveiller, on va vraiment faire attention et si toi, tu fais des choses pas bien, je serai là, d'accord ? Mais quand on dit « j'attends de pied ferme la sortie du prochain James Bond », il y a cette idée d'excitement. On attend, on est impatient, d'accord ? On pourrait tout à fait dire « je suis très impatiente que le prochain James Bond sorte au cinéma », d'accord ? Mais là, il y a vraiment cette idée de « je ne bouge pas, j'attends que ça sorte », d'accord ? Attendre de pied ferme. Ensuite, quand on veut parler, qu'est-ce que ça veut dire de « attendre un heureux événement » ? Ça, c'est assez facile. Il y a quelque chose de similaire avec l'anglais, vu qu'on dit « expecting » aussi. Qu'est-ce que c'est un heureux événement ? C'est quelque chose de très spécifique. Je note ce qu'on a fait. Oui, Kali me dit c'est une naissance, c'est ça. Donc, c'est un bébé. Donc, to expect a baby or to be expecting, c'est vraiment la même chose. On dit aussi attendre. Donc, on dit attendre un heureux événement ou attendre un bébé. D'accord ? Donc, être enceinte, on peut tout à fait dire ça aussi. Par exemple, on peut dire Jeanne attend un heureux événement. Et là, on va dire dans le futur, d'accord ? Pour... qu'est-ce qu'on va dire ? Février. Jeanne attend un heureux événement pour février, d'accord ? Et là, c'est vraiment quelque chose qui est fixe. Un heureux événement, c'est toujours un enfant, d'accord ? Sauf, je sais pas, dans 0,01% des cas, un heureux événement, c'est toujours un enfant. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, une longue maladie, c'est pratiquement toujours un cancer. Ou ça peut être une maladie très, très grave aussi, mais en général, une longue maladie, c'est un cancer. Donc, un heureux événement, c'est toujours un bébé. Une longue maladie, c'est toujours, pratiquement toujours un cancer. Un heureux événement, donc on peut dire un bébé. Mais quand on veut dire « is expecting » sans rien, on dit « être enceinte », d'accord ? Par exemple, Jeanne is expecting… Que vous utilisez le verbe tout seul comme ça, on ne dit pas Jeanne attend. Tout seul, ça ne marche pas. On dit Jeanne est enceinte. D'accord ? Je crois que vous utilisez ça comme ça. Être enceinte. Voilà, pregnant ou expecting. Voilà. Karen's family was delighted to hear that she was expecting. On n'a pas d'équivalent, d'accord ? Vous ne pouvez pas mettre juste le verbe. Elle attend, elle est en attente, ça ne marche pas, d'accord ? On dit elle est enceinte. What about a pet expecting ? Oui, Marie-Kelly dit elle est pleine. Alors, moi, je n'ai pas d'animaux, donc je ne sais pas exactement le vocabulaire. Mais être pleine, on va le dire pour une vache, par exemple. La vache est pleine. Le veau arrivera dans... j'en sais rien, moi, j'y connais rien, dans 4 mois. D'accord ? Après, j'imagine que si vous avez une chienne, si vous avez une chatte que vous aimez beaucoup... peut-être que vous n'allez pas utiliser le mot plein parce que c'est peut-être plus pour des termes d'animaux de la ferme, d'accord ? Donc, peut-être que si vous avez un animal domestique que vous aimez beaucoup, vous allez utiliser le mot enceinte. Mais moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je n'ai pas d'amis qui ont des animaux de compagnie. Et donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui utilisent ce mot-là. D'accord? Peut-être que utiliser être plein ou être pleine, c'est que pour les vaches et ils le prendraient mal, je ne sais pas. Could you say ma chatte attend un heureux événement? Oui, bah oui. Parce qu'en fait, heureux événement est quelque chose de mignon. Et puis, c'est ton chat, donc c'est positif, d'accord? Donc, tout à fait, tu peux dire ma chienne attend un. Alors, il faut conjuguer le verbe, hein. Un heureux événement. Je suis ravie, d'accord? Donc, tu peux tout à fait dire ça. À nouveau, on a vraiment, avec un animal de compagnie, on a vraiment une relation forte. Et donc, on va projeter des termes humains sur eux. D'accord? Donc, c'est tout à fait possible. Mais après, je ne sais pas si c'est OK de dire qu'une chienne est pleine, si c'est votre chien préféré. Ça, ce n'est pas du tout mon domaine, je ne sais pas. Donc, on ne l'utilise pas tout seul. On ne dit pas Jeanne attend, on dit Jeanne est enceinte. Ensuite, quelle heure il est? Ah, déjà? Eh bien, dis donc, c'est tellement agréable d'être avec vous, j'oublie le temps. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes que je voulais vous montrer. C'était tout vient à point à qui sait attendre parce que c'est une expression. Ça se tient tout seul. À qui sait attendre. Tout vient, il manque un mot. Tout vient à point à qui sait attendre. Donc ça, c'est une expression. Je pense que vous avez un équivalent en anglais. Je crois que je l'avais vu en préparant. C'est un truc du genre. Good things happen to those who wait, quelque chose comme ça. Tout vient à point à qui sait attendre. All things come to those who wait. Voilà, good things come to those who wait. C'est exactement la même chose, d'accord? L'usage est exactement le même, la structure est à peu près la même. Voilà. Donc en termes d'usage, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est exactement la même chose. Si vous savez utiliser All things come to those who wait, c'est pareil, d'accord? C'est pareil. Et en général, c'est... Tout vient d'abord. Je dirais qu'il y a une notion un peu de revanche quand même dedans, d'accord? De vengeance, de revanche. Voilà, et c'est rien, ne rien perdre pour attendre. Ça, c'est vraiment important pour attendre. Donc, ça aussi, il y a une idée de vengeance, de revanche. Ne rien perdre pour attendre, on n'a jamais tout seul, d'accord? Donc là, quand je dis ne rien perdre pour attendre, déjà, moi, ça me fait réfléchir parce qu'il a fallu le mettre à l'infinitif. En général, ça s'adresse à quelqu'un. Donc, un exemple. Tu as volé ma voiture. Tu ne perds rien pour attendre. Je vais me venger. D'accord? Est-ce qu'on a une bonne traduction? Ne rien perdre pour attendre. You get what you deserve. Deserve. Get what's coming to you. En fait, effectivement, la traduction littérale, c'est You lose nothing by waiting. Mais ça n'existe plus du tout. La traduction, c'est Only you get what you deserve. Et en fait, on ne réfléchit même plus au sens des mots dans cette expression. C'est vraiment juste Get what you deserve. Tu vois, vous voyez, tu as volé ma voiture, you stole my car. You'll get what you deserve. I'm going to get a revenge. Tu as volé ma voiture, tu ne perds rien pour attendre. Je vais me venger. Par exemple, vous ne perdez rien pour attendre, je vais récupérer l'argent que vous m'avez pris. D'accord? Donc il y a toujours cette idée de revanche. Je regarde mes notes. Voilà, c'était vraiment les deux grosses expressions. Après, si vous voulez l'utiliser dans une phrase, vous avez une équivalence avec to expect, par exemple, s'attendre au pire, to expect the worst, s'attendre au pire, par exemple, je m'attends au pire avec ce nouvel album. Non, on va mettre quelqu'un qui est mort, comme ça on ne prend pas de risque, d'Edith Piaf. D'accord ? I expect the worst with this new album from Edith Piaf. Mais si on veut dire qu'on est déçu, on peut dire je m'attends à mieux. Donc, s'attendre à mieux. Donc, c'est quand on dit je m'attends au pire, c'est the worst thing possible. Mais s'attendre à mieux, c'est I expect better from something else. D'accord ? Il y a une idée de comparaison quand même. Je suis allée voir le dernier film de Jean Gabin, puisqu'il est mort, donc on ne prend pas de risque. Je suis déçue. Je m'attendais à mieux. D'accord ? Donc là, on a une comparaison. Je m'attendais à mieux que ça. D'accord ? Là, on compare. Je suis allée voir le film, dernier film de Jean Gabin. Je suis déçue. Je m'attendais à mieux que ce que j'ai vu. D'accord ? Il y a toujours une comparaison, mais là, on n'a pas besoin de le répéter parce qu'on vient de le dire. OK ? Voilà. On va s'arrêter là. Je vous ai parlé des choses les plus importantes. Donc, pour la prochaine fois, fais trois phrases avec des expressions avec « attendre ». On se voit le lundi de la dernière semaine d'août. Je vérifie. Hop là, c'est... De toute façon, je l'ai noté. On se voit le 23 août. D'accord ? La prochaine session, c'est le 23 août. Et donc, pour finir, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? C'est quoi les choses qui vous ont marqué ? Comme ça, ça nous permet à nouveau de mémoriser, peut-être d'ajuster certaines petites choses. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a vu donc attendre, s'attendre, s'attendre à ce que, plus un subjonctif. On a revu des éléments de Guillaume Deleure qu'on a vu la semaine dernière. On a vu tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? What did you learn today? Alors, Kelly me dit attendre de pied ferme. Tout à fait. Attendre de pied ferme. On pense arriver, me dit Marie-Kelly. Tout à fait. Donc, penser arriver pour to expect to arrive. On pense arriver. Espérer plus verbe, tout à fait. Plus verbe à l'infinitif. Hein. Par exemple, on espère manger, on espère arriver, on espère venir, on espère partir, tout ça. Quand on utilise attendre à avec ou sans subjonctif, tout à fait. Attendre au tournant. Tournant. Donc là, l'auteur disait que le subjonctif, c'était important aussi, effectivement. Attendre au tournant, beaucoup de phrases utilisant le verbe attendre. S'attendre à ce que plus subjonctif. D'accord, c'est tout à fait ça. Que plus subjonctif. Tout à fait, très bien. Ok, bah c'est super. Très bien. S'attendre et attendre. Tout à fait. Donc, attendre, c'est « I am waiting for something ». Et s'attendre, c'est « I expect ». D'accord ? Donc, c'est différent. Mais s'attendre, c'est si on veut « I expect something to happen », en général, on peut aussi dire « je pense que » si ça me concerne moi. D'accord ? Voilà. Très bien. Bah, super, merci à tous. Passez trois très bonnes semaines. Je vous souhaite bonne chance pour tous, où que vous soyez, quelle que soit votre situation. Tenez bon, bon courage et je vous souhaite tout le meilleur. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Je sais que certains sont dans le 30 Day French Challenge. Il nous reste une semaine. On parle de la Provence. Oui, cette semaine. J'ai tourné les dernières vidéos ce matin, du coup, c'est encore dans ma tête, c'est tout frais. Et puis, voilà. Super, très bien. Eh bien, je vous souhaite à tous trois bonnes semaines. Et puis, de toute façon, vous recevrez quand même les vidéos du mardi, puisque j'ai tout préparé en avance. Évidemment, je ne vous laisse pas tomber. Et on se voit dans 3 semaines. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Salut.